appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mouzimaï, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le député national Ogui Kalonji a adressé la semaine dernière une question écrite au ministre des Affaires sociales. Il accuse d'avoir violé la loi en signant un contrat d'assurance funéraire avec une société privée pour organiser les funérailles des agents et fonctionnaires de l'État. Pour lui, seul le ministre de la fonction publique est habilité à gérer toutes les questions liées aux besoins des agents et fonctionnaires de l'État. Comment commentez-vous cette actualité? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis en nom de par Alain Goy. J.R. Lungembo est à la réalisation et pour moi, Pierrot et la Magie, c'est un réel plaisir de vous les présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Magie.
Le contrat, rappelons que le contrat a été signé le samedi 22 février à Kinshasa. C'est une convention d'assurance collective obsèque au bénéfice des agents et fonctionnaires de l'État, signée avec la société d'assurance Rao sur Life SA, qui en principe doit s'assurer de payer le frais des funérailles pour les agents et fonctionnaires de l'État, les frais remboursés par les trésors publics. Une autre opinion estime qu'une telle démarche devait être menée concomitamment et surtout assurée par le ministère de la fonction publique. Pour 57 minutes de débat, Maître Charles Mouchizi, merci d'être avec nous en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete et auteur de plusieurs livres dans ces débats. Il y a d'abord la question juridique, mais la question sociale qui se pose. Mais est-ce que la question juridique, le ministre des Affaires sociales peut-il engager le gouvernement dans un contrat avec une société privée qui touche les agents et fonctionnaires de l'État?
Alors, le cadre juridique qui régit le fonctionnement du gouvernement, les modalités de collaboration entre les ministres, entre le chef de l'État et le gouvernement, le premier ministre, et celui qui est établi par l'ordonnance prise par le chef de l'État le 10 juillet 2017. C'est l'ordonnance 17-017-024 du 10 juillet, et dont l'article 4 dit que c'est le chef de l'État prend par ordonnance délibéré gouvernement en conseil de ministres qui définit les attributions de chacun ministère. À ce jour, la configuration du gouvernement n'étant pas celle de 2017, il est difficile de faire un peu l'application automatique de l'ordonnance qui avait été prise en 2017 justement qui définit les attributions du ministre des ministres. Mais quand cela ne tient, puisque l'article 10 de la même ordonnance dit que le ministre, le premier ministre assure l'unité de l'action du gouvernement, et parce que c'est lui qui dirige le gouvernement, c'est lui qui est compétent pour réunir les ministres sectoriels qui rentrent dans le cadre d'une attribution où justement on est en présence d'une multisectoralité. Et donc là, on est déjà en présence des attributions du ministre qui relève du ministre de la fonction publique. On est en présence des attributions qui relèvent du ministre de l'Intérieur pour ce qui est de la gestion des cimetières, par exemple. On est en présence des 3, 4, 5 ministres qui interviendraient dans ce genre de domaine. Et donc, il est de droit que le cas juridique qui régit le fonctionnement du gouvernement soit d'application, pour que plutôt ce genre de signature relève d'une synergie gouvernementale.
Mais est-ce que dans la logique, on sait que la ministre estime que elle voit à chaque fois des lettres de réclamation des remboursements des frais funéraires qui arrivent au ministère des Affaires sociales où les familles ont déjà dépensé l'argent pour enterrer les fonctionnaires agents de l'État et ils reviennent après pour demander qu'ils soient remboursés. Est-ce que dans ces conditions, l'initiative de pouvoir assurer les funérailles dignes aux agents et fonctionnaires de l'État devait partir de la fonction publique ou devait partir du ministère des Affaires sociales. C'est exactement ça le débat aujourd'hui.
En tout état de cause, sachant que les entreprises privées ne font des actions que pour gagner de l'argent, pour générer des bénéfices, la question d'affaires ne peut pas primer sur l'union, la cohérence et la concertation permanente entre les membres du gouvernement pour ce qui est de leurs attributions respectives, lorsque ces attributions doivent se conjuguer dans le cadre d'une action gouvernementale. Et donc, du coup, cette ruée vers une entreprise qui veut faire des bénéfices pour un résultat, pour un objectif visiblement social, c'est vrai, ne devrait pas être le premier motif sur base de laquelle, la première base sur fond de laquelle la ministre devait signer. Elle devait amener cette question au débat au sein du gouvernement parce qu'il y a en plus des aspects sociaux qui ressortent de ce type de contrat. Et donc du coup, la ministre a agi de manière isolée, mais en engageant la responsabilité des autres ministres sectoriels qui malheureusement n'ont pas été consultés pour enrichir peut-être le document pour ce qui est des aspects qui les concernent et pour faire de ce document un document qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Parce qu'il s'agit de la mise en œuvre d'une politique du gouvernement et pas de ministres de manière isolée. Le ministre n'exerce ses attributions que dans le cadre de l'unité de l'action gouvernementale.
Mais quand on regarde, parce que vous l'avez dit, c'est une société privée qui fait de bénéfices, mais on sait aussi les grandes difficultés que nous avons aujourd'hui avec le gouvernement congolais pour la dette intérieure. Et pas plus tard qu'il y a deux mois ou un mois, on a fait une émission ici avec un compatriote qui a livré à l'État congolais les matériels dans un cadre d'un partenariat avec le ministère de l'Intérieur pour la question de la gestion d'incendie, et cette dette n'a jamais été payée par les trésors publics. Alors comment éviter au lendemain, quand déjà l'action posée par la ministre des Affaires sociales ne semble pas porter l'unanimité au niveau de la compréhension des autres membres du gouvernement, cela risque de poser problème dans la mise en œuvre de ce programme et surtout dans le droit qui doit être versé auprès de cette société quand elle aura déjà peut-être dépensé l'argent pour organiser les funérailles.
Mais c'est justement ça le genre de contrat léonin qui négativement, de manière générale, les institutions de notre pays. Lorsque un contrat est signé sans que les contreparties soient clairement définies à l'avance, il est clair que c'est l'État qui en pâtira et on va se retrouver devant un État submergé par des dettes colossales et qui ne saura pas les payer. Après, ça va quand même engendrer un certain nombre d'actions aussi en responsabilité. Et donc, du coup, il faut regarder ces genres de contrats dans leur aspect d'intérêt, dans leur aspect d'interaction et dans leur aspect d'objectifs et des résultats qui doivent être atteints. C'est vrai qu'on veut bien que les fonctionnaires soient enterrés dans des conditions de dignité, mais là encore, l'assurance, c'est une question d'individu. C'est pas le gouvernement qui vient s'assurer, ce sont les individus qui doivent s'assurer. Alors, lorsque une entreprise qui veut faire des bénéfices veut enterrer un individu qui devait en principe seul s'assurer et met les charges, les frais à charge de l'État, c'est sûr qu'il aura tendance, et cette entreprise aura tendance à faire des enchères, parce qu'il sait pertinemment bien que obtenir des paiements par rapport à ce qu'on connaît déjà de la situation de la dette publique intérieure, c'est que des enchères, et après ça va favoriser le coulage des recettes, les corruptions et les pots de vin, parce que chaque fois pour se faire payer, il faut passer par des chaînes très très longues, et à chacune des étapes de cette chaîne, on est obligé de laisser de l'argent. Et donc ça sera plus ou moins de la surenchère, et ça il faut le prévenir déjà, en faisant plutôt de cette action une action gouvernementale, et pas d'un ministre de manière isolée. Il y a énormément d'aspects qu'il faut mettre en synergie, et en examen au sein de plusieurs ministères qui interviennent dans le domaine.
Alors avant d'écouter les auditeurs qui sont en ligne, maître, vous l'avez dit, l'assurance c'est une question d'abord individuelle, mais est-ce que on est aujourd'hui dans le pluralisme, on peut dire ainsi, on a libéralisé les secteurs des assurances, mais est-ce que d'une manière collective, parce que cette convention elle est collective, faudra-t-il aujourd'hui permettre à chaque fonctionnaire de l'État de faire son choix, de s'assurer par son choix, ou sur le plan juridique, le gouvernement peut-il obliger tous les fonctionnaires à avoir une assurance commune avec une seule société et que le gouvernement puisse prendre ça en charge?
C'est exactement ça justement, une des failles de cet acte qui a été signé. parce que du point de vue de droit, nul n'est censé stipuler pour autrui. Et lorsque on considère qu'une assurance est une affaire personnelle, personne ne peut m'obliger à m'assurer nécessairement chez tel ou chez tel autre. C'est moi qui délibère de où je me fais assurer par rapport aux exigences que j'ai. Et là, le ministre met l'État et les individus devant un fait accompli et leur fait subir une situation qui ne peut pas être acceptable du point de vue du droit. Un individu choisit son assureur de manière libre et délibérée et il discute justement du contenu de la prime à payer annuellement ou je ne sais pas, lorsque le sinistre est arrivé. Et donc, du coup, ça ne peut pas s'expliquer du point de vue du droit et du point de vue de la politique qu'un ministre est de manière isolée et contracté avec une société privée qui génère, qui veut générer des bénéfices, mais pour autrui, stipulé pour autrui. Non, nul n'est censé stipuler pour autrui, et ça c'est un principe de droit.
On va revenir à vous, Maître Charles Moshizi. Nous avons les auditeurs qui voudraient aussi commenter ces sujets. Comme je le disais tout à l'heure, je rappelle que les députés Ogui Kalonji a adressé la semaine dernière une question écrite au ministre des Affaires Sociales, l'accusant bien sûr d'avoir violé la loi en signant un contrat d'assurance funéraire avec une société privée pour organiser les funérailles des agents et fonctionnaires de l'État. Les autres observateurs estiment que cette question devait être traitée par plutôt le ministère de la fonction publique. Comment commentez-vous cette actualité, Jérémy? Vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour également à l'invité avec vous. Je pense que c'est de son droit d'initier quand même d'utiliser les droits chemins pour exprimer ses sentiments relatifs selon lui à une violation de la loi impliquant bien évidemment le ministère ayant en charge les affaires sociales. Dans ma manière de percevoir ce dossier, je me dis que ce soit l'un ou l'autre, les deux n'ont pas tort, d'autant plus que pour d'emblée, l'initiateur de la question écrite honorable Kalonji doit quand même avoir à l'idée que cette question n'oppose pas seulement les deux ministères dont il fait mention ici, parce que il parle bien dont l'un doit détenir, n'est-ce pas, la préférence d'être assumé comme responsable direct dans l'accomplissement de telle ou telle mission. Mais il doit aussi savoir que il n'est pas seulement question de ces deux ministères. Nous avons par exemple le ministère de la fonction publique avec celui des finances. Quand vous allez à la DGDA, on vous dira que les deux ministères co-gèrent parfois. C'est-à-dire les deux ministères travaillent pour une seule entreprise. C'est ce qu'ils vous diront quand vous allez à la DGA. On vous dira que les deux co-gèrent. Alors, d'une part, je me dis, que ce soit la fonction publique ou ceci, les deux co-gèrent. Mais je me dis, mais si les deux s'engagent, je ne vois pas un péché. Si les députés eux-mêmes, qui sont les législateurs, ont eu à définir les attributions de chaque ministère, je ne sais pas, par vote ou par initiation d'une loi quelconque. Mais là où je voudrais un peu poser la question, si je voudrais juste revenir pour aller à ce qui concerne le ministère même ayant en charge les affaires sociales. Bien sûr, qui a eu à signer les 10 contrats pour l'assurance de funérailles des agents et fonctionnaires de l'État. Certes, c'est un geste à saluer, juste valeur, M. Pierrot, parce que ce geste est à encourager, mais la grande question que maintenant que je me pose, est-ce que c'était ça la priorité?
Alors, mais c'est aussi le même problème, ça dit qu'il y a les gens qui se posent la question aujourd'hui de savoir est-ce que cela a été déjà discuté en Conseil des ministres, parce que vous savez, comme le disait notre invité, c'est une question qui va impliquer le ministère du budget, le ministère de finances. Est-ce que cela a été prévu dans le budget qu'il y ait un contrat avec une société privée sur les trésors publics pour financer les funérailles des agents et fonctionnaires de l'État? Cela veut dire qu'il faut toute une sécurité autour de cette question pour éviter que les trésors publics ne soit contraint demain à pouvoir payer des frais. On sait comment ça se passe dans notre pays. Merci beaucoup, Jérémy. Maître Serge, vous êtes à Kamina. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, mon ami Pierrot. Bonjour à tous les millions auditeurs de la radio Capitaine. Vous écoutez à ce moment.
On vous écoute.
Oui, moi je voulais toujours paraphraser ce que mon prédécesseur vient de dire. Moi je crois que la question là est bien tracée, mais sauf qu'il aurait fallu suivre la procédure normale. Il fallait discuter autour de cette question et pouvait peut-être arrêter des méthodes régaliennes qui pourraient peut-être produire le fruit positif pour l'achèvement de cette méthode-là. Sinon, je vois qu'il y aura des tiraillements qui ne vont aboutir à rien. Et on risquerait peut-être de crier haut et fort jusqu'à réveiller les morts au cimetière, mais sans succès. Autant retourner d'abord en chambre et discuter autour de cette question et ils vont trouver une solution. Après la solution, on mettra peut-être cela en vigueur. Voilà un peu ma petite contribution que j'avais par rapport à cela.
Merci beaucoup. Serge, vous estimez qu'il faut, parce que déjà, il faut que ça soit discuté entre les différents ministères, cela veut dire le ministre de budget, le ministre des finances, le ministre des affaires de la fonction publique. Il fallait que ça soit discuté pour éviter qu'on ait des problèmes demain. Olivier, vous êtes à Kikwit. Vous avez suivi ces cheminements des débats autour de cette question. Quel est votre point de vue, Augustin, Olivier?
Olivier, oui. Pierrot, merci. Bonjour à vous et à l'invité, à tous les auditeurs.
Oui, on vous écoute, oui.
Oui, Pierrot, c'est une question très complexe, hein, parce que vous comprenez que l'invité a cité 5 ministères, mais on peut en ajouter, les humanitaires peuvent entrer dedans et tout le monde peut entrer dans la danse. Donc, ça c'est un problème d'unité de l'action gouvernementale. Mais moi, mon problème n'est pas là. Moi, je suis dans le domaine des priorités. Vous voyez, j'estime que le ministre des Affaires sociales devait plutôt aider le social à bien fonctionner pour éviter les décès. Ça, ce serait une première bonne chose. On dit, bon, voilà. Veillons à ce que les fonctionnaires attrapent des crédits pour avoir des maisons habitables, dignes de ce nom-là. Veillons à ce que les gens aient les possibilités d'aller à l'hôpital. Et tout ça, moi je prendrais ça comme une action sociale digne de ce nom. Mais aller chercher à bien m'enterrer après m'avoir abandonné pendant ma vie, à quoi ça sert, Pierrot? À quoi ça sert? Et ça, je pense que nous devons nous adresser à tous les membres du gouvernement. On ne doit pas nous laisser mourir pour bien nous enterrer. Non, là, je suis tout à fait opposé à ce genre de choses. Donc, voilà. Mmh. Alors, je pense que au-delà des problèmes juridiques que ça peut soulever, moi, je crois qu'il y a un problème tout à fait, humain. Les ministres doivent savoir que nous avons plutôt besoin de vivre que d'être enterrés avec des honneurs entre ciel et terre, ou je ne sais plus quoi encore. Alors, l'action sociale à mener n'est pas compliquée. Et je crois que si tout le gouvernement prend à bras le corps ce qu'on appelle affaires sociales, Pierrot, vous conviendrez avec moi que les fonctionnaires congolais vont bien travailler, le Congo va se développer et tout le monde vivra à l'aise. Pour moi, c'est ça le point de départ. Qu'on n'aille pas chercher midi à 14h, comment gagner de l'argent pour soi-même. Donc voilà ce que je peux dire, Pierrot.
Merci beaucoup. Olivier, vous estimez que aller signer un contrat pour être bien enterré, c'est là, c'est aller vite en besogne. Le ministre aurait fait de mener des démarches pour que les conditions de vie des fonctionnaires soient améliorées, plutôt que les laisser dans des conditions difficiles et pouvoir les enterrer avec honneur. Merci beaucoup, Olivier. Dieudonné, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Pierrot et la Mégie. Bonjour à tous les intervenants de la radio Kati.
On vous écoute.
Les problèmes s'imposent d'abord sur la surveillance. Nos ministres n'ont pas de surveillance concernant pour notre activité au niveau national ou au niveau provincial. Nous voyons aujourd'hui les travailleurs sont en train de souffrir dans des conditions très difficiles. Il y a même des fonctionnaires de l'État qui sont en train de souffrir à cause des finances. Alors nous demandons aussi de nos ministres d'appuyer aussi pour surveiller dans toute couche qui concerne les biens publics de l'État. C'est ça au moins ma contribution. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieudonné. Franck, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Vienne. Bonjour.
Bonjour, notre ami Pierrot. Bonjour aux amis du studio. Bonjour à ceux qui se sont déjà exprimés et à ceux qui vont aussi émettre leur point de vue.
On vous écoute, oui.
Oui, merci beaucoup. Je dois commencer par dire que, en intervenant, nous ne voulons pas nous interférer aux prérogatives juridiques et parlementaires reconnues par notre constitution en vigueur à chaque honorable député ou national ou provincial par rapport à l'exercice intégral de leur mandat. Mais tant à voir seulement la sensibilité de cette problématique. Moi, personnellement, ça me pousse à m'étonner d'abord et à me poser autant de questions. Ça pousse à m'étonner parce que je me rends compte que la situation dont nous sommes en train de parler ressemble à une confrontation entre deux éléphants qui tentent de s'affronter en pleine brousse. Et quand deux éléphants s'affrontent, nous savons qui en est la victime. Puis, si nous devons revoir la situation de l'intérieur, la situation socio-juridique dans laquelle se trouvent la plupart de nos compatriotes fonctionnaires de la fonction publique, il y a lieu de reconnaître qu'il y a beaucoup de gammes de déficits. Il y a d'abord des déficits au niveau de couverture sociale. Il n'y a pas de couverture maladie qui garantit. Il n'y a pas de couverture des retraites. Il n'y a pas de couverture des funéraires. Tout ça. On reconnaît que de ce côté-là, il y a autant de gammes de déficits qui exigeraient un peu d'attention pour qu'on puisse réhabiliter tous nos compatriotes fonctionnaires de la fonction publique dans leurs droits. Mais si maintenant je prends seulement la procédure initiée par l'honorable député, je me pose autant de questions. Pourquoi ne se réfère-t-il pas en priorité à la notion de la transversalité des compétences et prérogatives ministérielles de la fonction publique? Et en suivant l'invité, je crois qu'il a bien dit que cette question, c'est un aspect synergique. Ça demande autant de compétences, autant de collaboration au niveau ministériel. Mais pourquoi ne pas laisser cette compétence être discutée au niveau des ministres, d'abord entre eux, au lieu de la mener au Parlement? Et alors, l'interrogation qui me préoccupe aussi pour les ministres des Affaires sociales, moi je crois qu'on doit d'abord se battre pour l'homme dans son intégralité. Et je vois mal qu'on se préoccupe seulement pour chercher une assurance pour enterrer et négliger cette assurance capitale, l'assurance maladie. Pourquoi ne pas commencer par repenser l'intégralité des couvertures de vie, assurance maladie, assurance retraite, assurance, et comme ça, parmi ces paquets des assurances, on penserait aussi à l'assurance des obsèques. Mais si on vient seulement signer un contrat avec une agence privée pour les obsèques, ça donne à penser, et tel que les choses fonctionnent chez nous, mon ami Pierrot, c'est seulement question ici d'un marché juteux, et les uns et les autres se bousculent parce que chacun veut se retrouver. Mais c'est vraiment difficile à comprendre qu'on néglige d'abord l'aspect fondamental qui est la santé. On ne veut pas soigner les fonctionnaires de la fonction publique, on ne veut pas lui donner les conditions normales pour bien vivre, mais on pense seulement à l'intérêt dignement. Est-ce que c'est vraiment humain et éthique? C'est la question que je me pose.
Merci beaucoup, Franck. Vous avez souhaité que la question soit discutée au niveau du gouvernement au nom de la transversalité des compétences. Mais les députés, lui, bon, c'est dans ses prérogatives constitutionnelles. Quand un député se rend compte qu'il y a un contrat ou une décision prise par un membre du gouvernement qui ne cadre pas avec la loi, c'est normal. Et c'est pourquoi la question écrite, c'est pour recevoir des explications du ministre, hein, pour savoir comment tout cela a été fait. Parce que quand je regarde les débats sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, il y a aussi les internautes qui disent, mais est-ce que ne faudrait-il pas passer à un marché public, à lancer l'appel d'offres pour savoir quelle est la société qui pouvait remporter ce contrat? Pourquoi avoir donné et choisi une société? Est-ce que c'est un marché de gré à gré? Ça dit qu'il y a autant de questions que les gens se posent, hein, autour de ce contrat, et c'est important que les gens en discutent. Mais vous l'avez dit, et ne pas avoir... Il fallait d'abord privilégier plus la couverture maladie ou la couverture retraite avant de passer à la couverture funéraire. 081-890-4969. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir dans ce magazine.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson, nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Maître Charles Mouchizi, vous êtes avec nous, notre invité. Vous avez suivi les compatriotes qui se sont exprimés. Il se dégage quand même un souci. Franck, Olivier disent, mais pourquoi ne pas procéder d'abord, par exemple, par une assurance couverture maladie, une assurance vie avant de pouvoir penser à l'assurance funéraire. Mais parmi les internautes aussi qui écrivent sur la page Facebook, il y en a qui reviennent aussi sur la question du respect de procédures dans le marché public. C'est une société privée. A-t-on lancé l'appel d'offres? Il fallait concourir. Voilà autant de questions qui se posent. Mais pensez-vous aujourd'hui qu'au niveau du gouvernement, il est nécessaire que les membres du gouvernement, les autres ministères qui sont impliqués dans cette question, parce que c'est une question qui touche aussi aux finances publiques, puissent vraiment discuter de cette question ou soit revoir le contrat? Est-ce que c'est possible aujourd'hui que ça se fasse avant peut-être qu'on arrive à, qu'on assiste à des scènes telles qu'on le voit souvent avec des différents contrats qui sont signés dans notre pays?
Alors, pour dire vrai, cette convention, cet accord qui a été signé cache mal le côté immoral de son essence et même des individus qui l'ont signé. J'imagine que à la base, ils voient le grand nombre de morts, le grand nombre de personnes vieillissantes au sein de l'administration et sur base desquelles ils ont fait peut-être des prévisions. Mais là n'est pas le problème. Je dis que sur le plan strictement juridique, Il n'est pas admis qu'un ministre s'immisce dans les attributions qui relèvent d'autres ministères. Et en vertu de l'article 10 de l'ordonnance qui règle le fonctionnement du gouvernement, la collaboration du chef de l'État avec les membres du gouvernement et des ministres entre eux, il est de droit que le premier ministre qui assure l'unité de l'action du gouvernement soit prioritairement saisi quand le domaine dans lequel veut s'engager un ministre engage d'autres secteurs qui ne sont pas les siens. Et donc, il est tout à fait de droit que la ministre, avant de s'engager dans un tel contrat, se réfère au Premier ministre et lui fasse une note technique lui expliquant les tenants et les aboutissants de l'intérêt de cette action. On a tout intérêt, en tout cas le gouvernement a tout intérêt à en faire un document synergique, qu'en faire un document purement isolé qui n'aura d'ailleurs aucun effet bénéfique ni sur les individus, ni sur le trésor public. Parce que, à la fin, il faut que le ministre du budget et le ministre des finances voient dans quelle mesure ils peuvent chaque fois liquider ou engager des grosses sommes demandées par l'assureur, parce que l'assureur, lui, il fait les bénéfices. Il fait pas de la philanthropie. Et donc, du moment qu'on est dans le cadre d'un engagement du gouvernement avec une personne privée, le gouvernement doit se réunir, ne serait-ce qu'en commission sectorielle, pour examiner minutieusement tous les aspects qui relèvent de cet engagement, afin d'en faire une partie de sa politique. Au cas où, évidemment, il s'avère qu'elle est pertinente. Et dans le cas, en l'occurrence, je crois qu'il y a un peu plus d'immoralité et de l'activisme dans cette signature que toute autre chose. On mise sur la mort, mais on ne mise pas, parce que si jamais il y a de l'argent disponible pour assurer collectivement les agents publics de l'État, ce qui n'est déjà pas correct du point de vue du droit, parce que l'assurance est une affaire personnelle, on ne peut pas m'obliger à me faire assurer par la SONAS ou par je ne sais pas quelle autre entreprise. Je choisis mon assureur selon mes convictions, selon mes exigences. Et s'il s'avère qu'un jour, l'État doit payer des sommes colossales qui auraient pu peut-être contribuer à augmenter le traitement, les salaires des fonctionnaires, on aura justement consacré une immoralité à la base en défendant cet accord qui n'en est pas un.
Mais alors, maître, si nous restons dans la logique, d'ailleurs, quand je suis en train de voir l'actualité, la ministre a expliqué que l'idée, c'est aujourd'hui, c'est que le gouvernement prend en charge les obsèques des fonctionnaires de l'État en temps réel. Et c'est la société d'assurance qui assure cela. Il faut que chaque fonctionnaire...
Ce n'est pas l'attribution du gouvernement d'enterrer les gens. La mort, c'est une affaire privée, c'est une affaire d'une famille. Ça n'a rien à voir avec les attributions du gouvernement. Et donc, c'est là que, encore une fois, cet accord cache mal l'immoralité et même peut-être l'incompétence à la limite. Le gouvernement n'a pas pour travail d'enterrer les gens. Même si c'est le chef de l'État qui est décédé, le chef de l'État peut décider à ce qu'il ne soit enterré que par sa famille et pas au gouvernement d'enterrer des gens. Et donc c'est indéfendable qu'un ministre, justement, signe des accords dans lesquels il engage le gouvernement pour des affaires qui relèvent vraiment des intérêts purement privés. Ça ne s'accorde pas, ça ne s'accorde ni avec le droit, ni avec la politique la plus correcte.
Oui, mais quand on regarde aujourd'hui, si vous regardez dans les entreprises du portefeuille de l'État, que ça soit l'OCC, que ça soit le GFREM et les autres, je l'ai vu même au niveau du ministère de portefeuille, vous avez les services sociaux. Quand il y a un fonctionnaire ou un agent qui meurt, les services sociaux se mobilisent pour chercher l'argent, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de l'entreprise, pour assurer ses obsèques. Est-ce que ce n'est pas déjà biaisé en amont? Comment ça s'est fait même dans les entreprises, même avec les fonctionnaires d'ailleurs?
C'est une pratique qui est fondée simplement sur la solidarité et n'a aucune base juridique, aucune base légale. C'est une pratique qui est fondée sur la solidarité, connaissant le faible pouvoir d'achat des familles éprouvées généralement. Alors c'est la communauté qui se cotise pour essayer d'apporter un petit soutien à la famille éprouvée. On sait que aujourd'hui enterrer une personne, ça coûte. Il y a la morgue qu'il faut payer, il y a le cercueil qu'il faut payer, il y a le lieu pour pleurer le mort qu'il faut payer. Il y a le bain de consolation, comme on l'appelle, et du coup, on arrive entre 10 et 15 000 pour enterrer de manière modeste une personne. Et voilà justement des individus qui vont se faire assurer par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qui va se faire des bénéfices au-delà de 15 000 très probablement sur chaque individu. C'est impensable et c'est immoral.
Voilà. Alors, on écoute Félicien.
Autant mieux le répartir pour améliorer carrément le traitement salarial des individus. Mm-hmm. Ils vont s'enterrer eux-mêmes. On n'a pas besoin d'un assureur pour être enterré.
Félicien, merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Vous avez suivi vraiment le degré de cette question. Une assurance pour assurer le funérailles des fonctionnaires, agents et fonctionnaires de l'État signé entre le ministère des Affaires sociales et une société d'assurance privée, en débat créé autour de cette question, un député qui saisit la ministre par une question écrite. Vous avez suivi notre invité. Quel est votre point de vue autour de cette question, Félicien? Bonjour. Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour. Je crois qu'on a des petits soucis. En attendant qu'on retrouve Félicien, Dieudonné Tamhagi. Bonjour, Dieudonné.
Bonjour, bon début de week-end à tous les auditeurs et à l'équipe des Paroles aux auditeurs.
Merci Dieudonné, on vous écoute.
Merci pour la parole. En tout cas, nous saluons parce que les Congolais, cette fois-ci, ont déjà compris qu'ils ne peuvent pas se laisser faire. Nous avons beaucoup de respect envers la ministre des Affaires sociales. On est au mois de la femme et... qu'elle a posé avec cette entreprise privée. Nous ne consommons pas ça. Nous ne consommons pas ça dans le sens que cela semble vraiment ne pas être consensuel. Consensuel dans quel cas? Comment expliquer sur une question qui engage la République un groupe d'individus, permettez-moi les termes, qui retrouve avec une entreprise privée? On n'a même pas passé le marché. On n'a même pas intéressé les concernés. On n'a même pas vulgarisé ce qui va être fait et on décide au nom de toute une république. En tout cas, ce sont des choses qui ne peuvent pas passer. Et nous pouvons simplement dire, malheureusement, il y a personne qui peut répondre à ma question, le répondant direct ou bien la répondant directe de cette question n'est plus avec nous, mais je pense qu'il y a ceux du ministère des Affaires sociales qui nous écoutent. Et nous pensons que ce qui peut être fait est que le ministère... la ministre plutôt puisse se ressaisir, rentrer auprès de ses homologues, rentrer auprès des autres, entre autres le ministre de l'Intérieur, partir auprès du ministre de Budget, ministre même de la Finance, parce que c'est ce qui va engager la République. Et discuter ensemble, revenir, mettre le marché au clair, pour que même les concernés puissent quand même avoir le temps de bien choisir. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, bien qu'on a libéralisé le secteur
des assurances,
on peut pas quand même s'arranger avec une entreprise en coulisses et puis engager toute la République.
Nous pensons alors, parce que ici, la question, quand on regarde, oui, merci beaucoup, Dieudonné, on va revenir à Félicien. Quand on regarde les débats même sur la page Facebook, les gens estiment qu'il faut déterminer tout ça, les frais qui doivent être versés à l'assureur par le gouvernement doivent provenir sur quoi? Sur les salaires de ses fonctionnaires. Est-ce que c'est un budget à côté qui doit... C'est-à-dire qu'il faut que tout cela soit clarifié au niveau même du gouvernement et surtout que les bénéficiaires qui sont les agents et fonctionnaires de l'État soient, qu'on leur explique comment tout cela va se dérouler et surtout le frais qui doivent être versés par le gouvernement pour ces funérailles. Voilà un peu toutes ces questions C'est pour cela même que les députés Kalonji a souhaité les explications du ministre à travers cette question écrite. On va suivre cela parce que l'ouverture de la session, c'est le lundi. On pourra voir si la question sera inscrite à l'ordre du jour et quelles seront les conclusions dans les jours à venir. Alors, je crois cette fois-ci, c'est bon. Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute autour de cette question, oui.
Oui, écoutez, moi je pense que l'initiative ou l'idée n'est pas mauvaise en soi. Et moi je pense qu'il y a été un problème de procédure. Donc, on peut peut-être remédier en envoyant ce dossier au niveau du Conseil des ministres pour qu'on voit à qui a plutôt dans ses attributions la responsabilité de ce genre de choses. Mais quand les gens disent que non, c'est une affaire privée, c'est pas une affaire de l'État, moi m'inscris en force. On ne peut pas dire ça parce que dans notre pays ici, il y avait déjà ce système-là. On voyait les véhicules, les Hyundai de l'État. Et les séquelles qu'on allait chercher, le PP, ce qu'on appelait communément PP, et on enterrait les agents de l'État. Et on ne peut pas dire que c'est une affaire privée, parce que dans beaucoup de pays, l'État prend en charge certaines choses. Quand dans un pays, l'État prend l'électricité en charge ou l'eau en charge, on ne va pas dire que l'eau c'est une affaire personnelle, pourquoi l'État doit prendre en charge. Il y a même des enfants, des maternités qui sont pris en charge ailleurs. Et on ne va pas dire que non, c'est pas l'État qui vous a demandé de faire les enfants. Et chez nous, tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, nous sommes entrés dans la gratuité des enfants seulement. Et c'est pas l'État qui a mis au monde ces enfants pour qu'ils puissent supporter les études de ces enfants. Donc, c'est pas un raisonnement. Moi, je dis que l'État va débourser de l'argent et tout ça. D'abord, moi j'ai entendu, et plutôt on ne peut pas prendre l'assurance au nom de quelqu'un. Ce que j'ai compris, c'est que cette assurance n'est pas une assurance individuelle que quelqu'un souscrit avec son salaire. Mais c'est l'État qui est en charge. Mais effectivement, on peut craindre les débordements, on peut craindre les antivaleurs, la corruption. Mais le président de la République est en train de se battre contre cela. Je pense que nous allons arriver à éradiquer la corruption et les antivaleurs. Donc, on ne va pas toujours continuer avec les antivaleurs et la corruption. Donc, question de contrôle. Et chaque fois, il y a des organes pour contrôler, pour voir s'ils ont exagéré du côté prix et qu'on donne pour les fonctionnaires. Sinon, c'est une bonne affaire.
Alors la difficulté aujourd'hui, Félicien, si vous suivez même dans le débat, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faudrait au niveau du ministère des Budgets dégager une ligne budgétaire pour rembourser à la société d'assurance qui va assurer le funérailles des agents et fonctionnaires. Cela veut dire que l'assurance envoie l'argent directement dans un compte, dans les comptes bancaires pour la personne qui est décédée. Et là, la famille, les ayants droit, utilisent cet argent pour le funérailles et après le trésor public vient rembourser auprès de l'assureur. C'est la grande difficulté, c'est tout ce mécanisme là qu'il faut mettre en place pour assurer exactement que le trésor public puisse arriver à payer, à rembourser l'argent de l'assureur.
C'est une initiative qui a commencé, mais on peut améliorer. Et les idées viennent des paradoxes, des chocs d'idées, j'ai la lumière. On trouvera une formule qui soit plus, qui soit meilleure et ça passera. Mais l'essentiel, c'est que qu'on sache qu'on peut enterrer les fonctionnaires comme on le fait dans les entreprises, vous l'avez dit tout à l'heure. Dans les entreprises, il y a des conventions collectives. Vous savez que les agents sont pris en charge par l'entreprise. Pourquoi pas les fonctionnaires? Donc moi, je pense que c'est une première, je vais dire, une façon de contribuer au social des Congolais. Ceux qui disent non, mais pourquoi vous n'avez pas commencé par l'assurance maladie, l'assurance salaire ou retraite, Mais il faut qu'on commence quelque part. Mais si cela commence déjà, on y arrivera au fur et à mesure. On ne peut pas tout faire à la fois.
Merci beaucoup, Félicien. Il faudrait, comme vous l'avez dit, améliorer. Il faut commencer quelque part. Il fallait commencer par cette convention collective des funérailles pour les agents et fonctionnaires. On le fait déjà dans les entreprises, mais quitte à pouvoir améliorer les procédures et éviter qu'il y ait le trafic d'influence, la corruption dans tout ce qui va se dérouler. Merci beaucoup. On reste à Kinshasa avec vous, Olivier. Bonjour.
Bonjour, JRE. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Olivier. Diminuez le volume de votre radio ou soit enlevez les mains libres sur votre téléphone, s'il vous plaît. Oui, Olivier.
Oui, merci. En ce qui concerne l'interpellation de l'honorable ministre des Affaires sociales pour la question des funérailles des agents et fonctionnaires de l'État, moi je suis d'accord parce que jusque-là on ne comprend pas dans ce pays qui fait quoi. On ne sait pas, les ministres peuvent venir répondre à cette question à l'Assemblée nationale pour nous donner plus d'éclaircissements. Je n'ai pas avec moi la loi qui lui donne ses prérogatives, mais du moins, l'honorable sait que la charge de funérailles revient au ministre de la fonction publique, mais le ministre des Affaires sociales donne ça à une entreprise privée. Je ne sais pas c'est pour quel but, on ne sait pas. Et là, il faut qu'il réponde à cette question et nous donner plus d'éclaircissements. C'est ce que je peux contribuer sur ce débat. Merci.
Alors, en fait, merci beaucoup, Olivier. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus d'explications, que ce soit au niveau de fonctionnaires eux-mêmes, qu'ils soient assez expliqués. Cela veut dire que c'est la responsabilité du ministère des Affaires sociales avec l'entreprise de pouvoir donner plus d'explications aux fonctionnaires et aux autres pour éviter des mauvaises interprétations, parce que vous l'avez dit, et nous espérons qu'à travers la question écrite, on pourra avoir plus d'explications pour comprendre qui doit faire quoi et tout ça, quels sont les mécanismes pour arriver à bien régler cette question. Maître Charles Mouchizi, on revient à vous parce que nous l'avons dit. Vous avez suivi ce que disait notre ami Félicien tout à l'heure, qui estime qu'il faut quand même commencer quelque part. S'il y a des problèmes pour améliorer, on peut améliorer. Cela n'exclut pas qu'on puisse prendre en charge les funérailles de fonctionnaires de l'État, comme on le voit déjà dans les entreprises avec cette convention collective des funérailles.
Je reviens sur le fait que cet accord signé viole les dispositions fondamentales de l'ordonnance du 10 juillet 2017 qui organise le fonctionnement du gouvernement et les modalités de collaboration entre les institutions. Je précise aussi que ce même accord viole les dispositions pertinentes du Code civil congolais livre 3 pour ce qui est de la stipulation pour autrui. Mais par-delà les aspects juridiques, il faut aller aussi dans les aspects culturels, parce que l'enterrement chez nous relève aussi des aspects culturels. La manière d'enterrer chez les Bakongo n'est pas nécessairement la même que chez les Bangala. Et donc, du coup, ça fait autant de particularités et de coûts différents. Et au finish, et c'est là encore le côté immoral de cet accord, au finish, qui paye ? C'est le fonctionnaire, parce que c'est sur son salaire que doit être prélevé sa souscription d'assurance obligatoire. La souscription sur cette assurance ne devait pas être obligatoire. C'est lui qui souscrit. En fait, on l'oblige à souscrire et on lui ampute en plus sur le peu de choses déjà qu'il gagne, le salaire aussi dérisoire. Parce que si on finit, lui qui va payer, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement n'a aucune caisse pour enterrer les gens et c'est pas des attributions du gouvernement. Et donc, le côté immoral de cette signature est aussi patent que le Premier ministre devait interpeller directement la ministre et l'appeler à retirer sa signature, à défaut d'annuler carrément l'acte, parce que c'est un acte qui n'est défendable ni sur le plan juridique, ni sur le plan politique, ni sur le plan culturel.
Alors, vous estimez que il faut qu'on prélève, le principe aurait été de prélever les frais sur les salaires des enseignants, qu'est-ce que j'ai dit, de fonctionnaires et agents de l'État. Et là, il se pose un problème parce que s'il faudrait prélever aujourd'hui sur les salaires des agents fonctionnaires de l'État, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait que les syndicats de la fonction publique qu'il y ait tout un débat autour de cette question pour savoir combien d'argent on devait prélever sur chaque fonctionnaire. Alors, c'est là conduit à ces grands débats autour de cette question.
On a mis la charrue devant le bœuf. La question devait d'abord être discutée au niveau du gouvernement afin de voir les aspects techniques qui relèvent de cette assurance. Ensuite, revenir en termes de consultation aux bénéficiaires eux-mêmes, puisque au fini, c'est eux qui payent, c'est pas le gouvernement. C'est eux qui payent par un prélèvement obligatoire, finalement, qui va être fait sur leur salaire. Au fini, les concernés doivent être consultés, parce qu'il y en a qui peuvent dire, moi, je me sens pas concerné. Moi, j'ai dit, par exemple, qu'on va incinérer mon corps. Et ça coûterait peut-être $500. Quelqu'un d'autre dirait, moi, on doit m'enterrer en Kamba et on sait à peu près ce que ça coûte. Jusqu'à la pierre tombale, ça peut vous aller jusqu'à $2500. Et donc, du coup, c'est des aspects culturels qu'il faut pas négliger, des aspects qui relèvent des droits individuels aussi qu'il faut pas négliger. Et il faut laisser chaque fonctionnaire décider lui-même de s'il s'assure ou il ne s'assure pas. Il n'est pas question que le ministre des Affaires sociales stipule pour autrui, pour l'obliger à payer une assurance à laquelle dont il ne sera aucunement concerné.
Alors, Kabuit Alikassi, merci à maître, on est avec vous, on vous garde en ligne, on tend vers la fin de cet échange, il y a beaucoup d'appels, et d'ailleurs, il y a un grand débat aussi qui se tient sur la page Facebook autour de cette question. Kabuit, vous êtes à Alikassi, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, oui.
Je pense que notre ami, l'initiateur de l'idée, doit retirer carrément sa proposition-là, son document. Pourquoi? Je pense, je n'ai jamais entendu au gouvernement, tout comme chez les ministres, tout comme chez les députés, discuter du salaire du fonctionnaire de l'État. Il y a eu le problème des soins de santé. On a obligé les fonctionnaires de l'État, les enseignants, à aller dans je ne sais pas quoi là, pour aller commencer à donner de l'argent et que c'était obligatoire, tout le monde devait... Est-ce que ils sont en train de se faire soigner là? Je pense que pour le problème si présent, notre ami là où le ministre qui a fait cette initiative doit retirer, parce que c'est un problème d'ensemble. Et puis c'est le ministère de la fonction publique qui doit faire cette initiative et non le ministère des Affaires sociales. Je pense que la ministre des Affaires sociales avait tout simplement quitté ou bien il est allé quelque part assister à une séance d'enterrement, il a eu pitié et il a pris la décision. Il devait passer dans la réunion du gouvernement pour parler, lancer cette idée et les autres allaient lui prodiguer des conseils. Dans le débat là-bas, devait sortir une bonne idée. Et il ne faut pas penser à l'enterrement au lieu de penser à la vie des fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires de l'État touchent très peu d'argent. Quand elles prennent cette initiative, c'est pour qu'on puisse encore dire non, pour vous enterrer, on va commencer à prendre quelque chose sur votre salaire durant toute votre vie. Non, notre ami s'est trompé, avec tous les respects que nous lui devons, il ou elle doit retirer cette initiative. Voilà, c'est mon...
Merci beaucoup, Kabuit. Vous estimez pour vous qu'il fallait que la question d'une convention collective des funérailles soit discutée en Conseil des ministres et que les autres ministres soient impliqués, et y compris le ministre de la fonction publique par exemple, parce que les fonctionnaires déjà ont des problèmes sur leurs salaires. Faudrait-il encore défalquer quelque chose pour contribuer à cette assurance? Et là, vous avez fait allusion à l'assurance de la mutuelle des santé des enseignants, la MESP. On sait aussi qu'il y avait eu tellement beaucoup de problèmes autour de la gestion de cette mutuelle. Il y a eu tellement de réclamations, tellement d'audits qui étaient réclamés. Les gens qui estimaient qu'il fallait changer la direction parce que les enseignants estimaient qu'ils n'étaient pas pris en charge correctement pour les soins médicaux. Alors pour vous, vous estimez aussi que c'est un peu très compliqué si tous les fonctionnaires agents de l'État ne sont pas impliqués dans cette question. Merci beaucoup. Alors, le débat, il est sur la page Facebook. Alors, on revient à vous, Maître Charles Mouchis, parce que là, on tend déjà vers la fin de l'émission. Vous l'avez dit, sur les plans juridiques, le problème se pose. Mais vous le savez aussi que dans notre pays, il y a beaucoup de contrats, beaucoup de conventions qui sont signées entre le ministère et des fois avec des sociétés privées. Et on ne les retire pas, ça reste ainsi. Mais déjà, on sait qu'il n'y a pas une nouvelle ordonnance aussi qui détermine, n'est-ce pas, les responsabilités au niveau du gouvernement aujourd'hui. On utilise l'ancienne ordonnance, ça pose assez des problèmes. Alors, comment on peut arriver à coordonner cette affaire pour que et les fonctionnaires puissent être satisfaits et puis que tout le monde se retrouve dans cette affaire sans que ça puisse conduire à des polémiques, même aussi à des conflits à la longue?
Oui, mais justement, déjà l'applicabilité de ce document va poser problème. Je ne vois pas comment, par une simple signature du ministère de la ministre des Affaires sociales, les fonctionnaires vont se mobiliser, ou que d'autres ministres, le ministre de la fonction publique par exemple, le ministre de la culture et de la santé par exemple, lorsque quelqu'un est mort par une maladie contagieuse et qu'il faut l'enterrer dans un cercueil en zinc, etc. Il y a énorme. Je ne vois pas comment cet accord va s'appliquer. Donc ça pose déjà problème en termes d'applicabilité. Et donc du coup, comme je le disais, conformément à l'ordonnance du 10 juillet 2017, c'est une action qui doit être initiée au niveau du gouvernement, non seulement pour en étudier la pertinence, mais aussi pour en étudier la faisabilité. Parce que sinon, au finish, qui paye? C'est pas le gouvernement. Il faut l'entendre de cette oreille-là. Il y a un côté immoral, indéfendable de ce document, en cela qu'il vient appauvrir davantage le fonctionnaire. Le fonctionnaire a besoin de voir ses revenus s'accroître. Alors que, sur base de cet accord, si jamais il s'applique, le fonctionnaire va être le dernier payeur, justement. Il doit payer. On va lui ponctionner de l'argent obligatoirement, parce qu'alors on lui dit, vous souscrivez individuellement à une assurance obligatoire. Ça n'a aucun sens. Du point de vue du droit, du point de vue des dispositions légales, la stipulation pour autrui, personne ne peut engendrer des obligations pour autrui sans que cet autrui-là ait été consentant dès le départ. Il doit donner son accord de volonté. Et c'est le côté le moins défendable du document. Et sur le plan politique, et sur le plan juridique, et surtout sur le plan de la moralité, parce que sincèrement, ça viole les principes les plus bas, les plus élémentaires de la décence. Quelqu'un qui est déjà mal payé, vous l'obligez à payer à nouveau pour un service pour lequel il n'est même pas demandeur. Et donc, ça cache mal une sorte de tricherie. Yang Gui sur Roche, en tout cas, derrière cette signature.
Mais est-ce que dans la logique, même si on évite, si on peut parler en dehors de cette convention collective, est-ce qu'individuellement, chaque fonctionnaire aujourd'hui peut-il souscrire à une assurance qui doit assurer ses obsèques? C'est possible aujourd'hui?
Le besoin est clair et certain. C'est une charge qui pèse souvent sur des individus et on a bien besoin de quelqu'un qui peut couvrir cette charge en acceptant des cotisations annuelles ou périodiques, en tout cas de la personne qui est couverte. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui a un salaire de moins de $200, qui ne sait déjà pas payer son loyer, qui ne sait pas déjà nourrir correctement sa famille, ni faire étudier ses enfants, lui demander de souscrire une assurance obligatoire parce que telle a été la volonté d'un ministre, c'est immoral, c'est indéfendable.
Merci beaucoup, Maître Charles Mouchis. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, auteur de plusieurs livres des droits. Vous nous avez livré votre analyse autour de cette question qui divise l'opinion. On va suivre dans les jours à venir la suite de la question écrite adressée à la ministre des Affaires sociales. Mais nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, tout en vous disant merci beaucoup, Maître, de nous avoir accordé de votre temps.
Bien, merci, au revoir.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Le prochain débat dans Parole aux auditeurs, c'est le lundi à 11h heure de Kinshasa. Cette émission est sur www.radiocapi.net. Merci à Alain Goy qui l'a mise en nom et Gilles Lungembo qui l'a réalisé. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Parole aux auditeurs. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.